Large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan Large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Voilà, Yvecker, on se retrouve dans cette cantine des Rives, au-dessus de Champéry, avec vous, pour parler un peu plus de cette OSEO, œuvre suisse d'entraide ouvrière. On en a brossé rapidement l'historique dans la première partie. Aujourd'hui, encore actif, comme d'autres associations, dans l'insertion professionnelle, dans l'insertion sociale, dans le travail avec les réfugiés. Quel est le corps de métier, on va dire ?
Nous, c'est vraiment l'insertion socio-professionnelle, donc ça veut dire trouver des outils pour que des personnes éloignées du marché du travail ou qui n'y sont pas encore arrivées aient plus de chances de trouver une formation ou un travail carrément. Donc à l'OSEOVO, on a vraiment des personnes de 15 ans qui ont différentes difficultés personnelles, des fois parfois psychiatriques ou autres, avec des prestations d'assurance invalidité, jusqu'à des cadres au chômage qui étaient dans des grandes entreprises de l'arc lémanique, dans la région de Genève ou Nyon, qui doivent retrouver quelque chose et qui n'ont jamais postulé, par exemple, pour certaines d'entre elles à 50 ans, parce qu'elles ont progressé dans des grandes entreprises, et qui, malgré des très bonnes situations antérieures, ne savent pas du tout comment vendre ce qu'ils savent faire. C'est assez intéressant.
Le monde,
ils ont
le
problème
monde qui
que
s'écroule.
Hein. Ouais. Ouais. Alors, ils doivent faire des deuils de propriété, de choses, de salaire, comme ça, mais aussi expliquer les compétences qu'ils utilisent pour appâter un patron potentiel. Et c'est assez intéressant d'avoir ces différentes catégories aussi de personnes qui sont touchées par le chômage souvent.
Je pense souvent à cette phrase de Coluche qui disait ils doivent être contents les pauvres de savoir qu'ils habitent un pays riche. On a cette image de pays riche en Suisse, c'est qu'une pauvreté qui se voit peu ou qui se voyait peu en tout cas. Il y a eu le flash Covid avec ces images de fil pour l'aide alimentaire. Quelle est la situation que vous percevez dans ce pays par rapport aux plus précaires ?
Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de choses cachées. Si vous êtes matinal par exemple comme moi, vous voyez à Martigny quand je vais prendre le train avant 6h, vous avez pas mal de personnes africaines qui sont à vélo, qui vont bosser dans les champs. Vous avez l'impression d'être à Niamey ou en Amérique latine. Elles sont assez invisibilisées. Et puis je pense à par exemple tout ce qui est les ferrailleurs, donc ceux qui montent ces fers pour les chantiers. Ben vous avez des endroits où les entreprises viennent prendre les gens tous les jours, le matin. Ça fait un peu marché aux esclaves quand
ça
même, ça existe.
Les journaliers, hein, qu'on a bien connus.
Ouais. Et c'est très peu connu, ça. Donc c'est vrai que c'est une réalité qui est là, qui est assez cachée volontairement ou involontairement. Donc ça existe. Et puis, on n'en parle pas trop. C'est vrai qu'il y a des thèmes sociétaux qui sont plus favorisés par les journalistes un petit peu mainstream. Tout ce qui est genre, par exemple, parce qu'ils sont peut-être plus proches de ces questions-là. Et puis, ils ne parlent pas assez, à mon avis, de gens qui sont surexploités.
Ah, c'est intéressant ce que vous me dites là, parce que j'ai parlé avec beaucoup de politiciens dans cette émission, déjà, qui est une émission toute jeune, mais déjà quelques politiciens, notamment sur le changement d'approche des thèmes des partis de gauche, parce que vous dites c'est les journalistes, les partis de gauche eux-mêmes sont allés vers ces thèmes sociétaux plus que sociaux.
Oui, alors c'est clair qu'il faut, c'est important de les aborder, mais je pense que on peut parler du PS vu que j'en suis membre, et c'est vrai que je pense qu'il y a un accent qui est mis par rapport à ces thèmes sociétaux qui doit être mis, mais il se fait un petit peu au détriment des personnes dont on parlait avant, mais parce que peut-être ses camarades sont plus bobos, connaissent moins ces réalités-là, et puis c'est aussi le rôle de l'OSEO de souligner ce genre de choses, de problèmes d'exploitation, et puis le mouvement socialiste est quand même un mouvement économique à la base, et on doit un petit peu revenir sur ses valeurs. Alors, Dieu merci, il y a des gens comme Pierre-Yves Maillard qui sont encore beaucoup sur ce terrain et tout le mouvement syndical, mais il y a pas mal de gens qui oublient un petit peu cette réalité-là qui est importante.
Bon, vous parliez vous évoquiez à l'instant Pierre-Yves Maillard, président de l'Union syndicale suisse. Ça me fait penser que j'ai oublié de dire tout à l'heure en parlant de l'OSEO que c'est une création de l'Union syndicale suisse et du Parti socialiste à l'époque. Donc vous restez dans la famille en somme avec cette charge, ce poste.
Oui, tout à fait. Et même femme socialiste suisse à l'époque qui avait créé l'OSEO plus particulièrement. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un travail depuis de nombreuses années où je peux garder un petit peu la mission de base et mes idéaux, donc malgré les années qui passent, et ça c'est quand même important d'avoir pour moi un travail qui fait sens, et puis je peux continuer à faire une forme de politique qui est plus une politique politicienne ou d'élu pour transformer la vie des gens si possible et puis donner davantage de sens et davantage d'autonomie à tout le monde. Et pour moi, c'est ça qui me remplit dans la mission à l'OSEO.
Bon, vous êtes positif, je vais être négatif. Ça marche, la réinsertion sociale? Je ne suis pas négatif, je pose la question, mais j'ai une idée derrière la tête, on va y venir.
Alors, ça ne marche pas avec tout le monde, mais on essaye avec chacun, comme j'aime bien dire. Mais si on prend typiquement les mesures Forjade, qui sont des mesures pour les jeunes dans le canton de Vaud, le nombre de personnes à l'aide sociale a beaucoup diminué au niveau des jeunes dans le canton de Vaud, qui était élevé, parce qu'on arrive à trouver des formations, avec l'appui des patrons d'ailleurs aussi. Hein. Et donc là, une bonne constellation maintenant, parce qu'il y a des besoins au niveau des entreprises. Et ça fonctionne bien. Après, certains programmes, on a un taux de réussite, je ne sais pas, de 50%, de 40%, de 60%. Alors, on peut toujours voir les autres qui n'ont pas réussi. Vide, ouais. Et c'est vrai que des fois, c'est un long chemin. Donc, un jeune qui n'est plus sorti de sa chambre presque pendant 6 mois, qui reçoit ses plateaux repas de ses parents, si on arrive à le faire venir une demi-journée, 5 demi-journées par semaine, et petit à petit, fait une formation adaptée, mais ça peut prendre 1 année ou 2 ans. Donc, sur le moment, c'est pas une réussite, mais déjà qu'il sorte et puis qu'il resocialise, c'est déjà une réussite. Mmh. Et c'est une base pour arriver à s'insérer.
On verra d'ailleurs, vous avez des programmes annexes hein, pour cette socialisation, notamment par la culture et la musique, on en parlera tout à l'heure, mais je vous posais cette question parce que vous avez évoqué ces cadres de 40-50 ans, enfin plutôt de 50 ans, hein, qui se retrouvent tout à coup dans le gouffre moral et mental de devoir se réinventer une vie. On nous parle de l'intelligence artificielle, on nous parle d'un monde du travail où il faut travailler de plus en plus, mais où il y a de moins en moins de jobs, hein, si je caricature un peu. Vous voyez cet avenir-là avec un peu de crainte ?
Oui, alors je corrigerai un peu parce qu'on a de plus en plus de places de travail.
Alors, il y a une vraie pénurie de main-d'œuvre
voilà,
en ce moment.
Ouais. Ouais, ça, c'est et vrai. Puis la Suisse continue à créer pas mal d'emplois, donc ça c'est bien. Mais c'est vrai que l'arrivée de l'intelligence artificielle est assez préoccupante d'un côté. Effectivement, nous on a fait quelques après-midi sensibilisation et c'est assez bluffant ce qu'on peut faire et ça nécessitera typiquement dans les RH mais à l'OSEO comme dans toute entreprise de gérer un petit peu différemment les engagements parce que maintenant on pouvait faire des lettres de motivation, des CV, des choses proprement incroyables qui nous fait souci, qui peut aussi faire souci à tout ce qui est la branche journalistique d'ailleurs, on en voit quelques conséquences déjà maintenant dans certains groupes et c'est vrai que ça fait souci par rapport à la démocratie, moi plus par rapport au traitement de l'information, à ce qu'on peut croire, pas croire, et là je pense qu'il y a des enjeux de citoyenneté qui sont plus importants que les enjeux directement d'insertion professionnelle, mais il faut qu'on domine un petit peu ces outils pour expliquer aux gens comment les utiliser sur le marché du travail, et c'est vrai que ça c'est un gros enjeu. Au niveau des pertes de postes, des fois on est un peu catastrophiste, et je pense qu'il y a aussi d'autres postes qui vont être créés grâce à ça, donc j'ai pas de boule de cristal, mais je suis pas obligatoirement trop négatif par rapport à ça, je dirais.
Bon, on est vaste communicant, plutôt positif, on espère avec vous. Vous parlez de cet instrument de l'intelligence artificielle, je vais faire un lien sur le mot instrument parce que je le disais, vous avez un programme depuis l'automne, hein, c'est assez frais, oui. À l'OSEO Vaud, de bibliothèque d'instruments de musique, racontez-nous ça.
Ouais, alors c'est vraiment comme une bibliothèque, on peut emprunter des instruments, c'est quelque chose qui n'existait pas et qui est intéressant pour moi parce que ça a été un peu créé par une incompétence que j'ai, à savoir d'être, je ne suis pas du tout musicien, donc on a parlé, j'aime bien faire du sport.
Créé par une incompétence que j'ai, vous m'avez dit, c'est ça?
Ouais, parce que...
Ben comme mettre plein à profit jeunes, ses incompétences, c'est pas mal.
Voilà, ben oui, parce que comme plein de jeunes, à 14-15 ans, je voulais être guitariste dans un groupe de rock. Bon, j'ai acheté une guitare. Comme Valdien, j'ai réussi à la revendre quasiment en faisant un bénéfice. Donc c'était déjà ma première réussite, mais voilà. Et puis après, j'ai réessayé plus tard, et puis en prenant même des cours. Mais voilà, c'est pas facile si on n'a pas un petit peu la musicienne. Et puis j'avais assez vite 3 guitares, mais assez peu de talent, je dirais. Et puis je me suis dit, c'est bête, puis, je suis de loin pas le seul à avoir des instruments qui font rien. Puis en me renseignant un peu, j'ai vu que ça existait au Québec, à Paris, mais en Suisse, ça n'existait pas, cette idée de bibliothèque d'instruments, à part dans des ludothèques qui ont une de flûte à bec. Donc l'idée est venue comme ça, puis petit à petit, on a participé à une récolte avec la RTS, et puis on a eu 160 instruments grâce à Jean-Marc Richard et toute l'équipe, la RTS, et puis après on a avancer dans ce projet. L'idée, c'est aussi que des gens qui ont peu de moyens puissent avoir accès à un instrument, quoi. C'est ça qui est bah, c'est pas évident. On parlait de
cher,
pauvreté,
hein.
50 francs par mois pour louer un instrument, plein de gens peuvent pas le faire. Mmh. Plein de gens se rendent pas compte, mais c'est déjà une belle somme. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent commencer un instrument puis se mettre en mouvement. Dans plein, il y a très peu de programmes en lien avec la culture. Il y a un petit peu avec le sport, mais l'idée, c'est de se mettre en mouvement, apprendre un sport, apprendre un instrument. C'est assez, ça enlève un petit peu des risques de dépression. On se dit, ah, je peux arriver, peut-être avec difficulté. Et puis, je suis quelqu'un et je joue d'un instrument. Et ceux qui jouaient déjà, comme des requérants ou des réfugiés, jouaient dans leur pays, ils n'ont pas pris leur instrument en venant. Et puis, d'un coup, en rejouant, ils ont une identité dans leur famille. Ils ne sont pas qu'un réfugié, qu'une personne qui demande une aide. Ils sont quelqu'un. Et ça, c'est important au niveau de l'estime de soi.
On ne pense pas souvent hein, dans l'idée de la réinsertion sociale. Vous l'avez dit, on pense assez facilement au sport, par l'équipe, hein, l'équipe de foot, par exemple. On ne pense pas souvent à la culture. Et ça m'a un peu frappé, votre expérience, parce que y a quelque chose de l'ordre de la fierté, en fait. Hein. C'est
exactement
ce que vous venez de nous dire.
Ouais, ouais, tout à fait. La fierté, l'estime de soi, la capacité d'apprentissage. Et puis après aussi de jouer avec d'autres, comme dans une équipe de foot, quoi.
De
partager quelque chose. Exactement. Donc on a commencé quand on a fait l'inauguration, d'ailleurs. Il y a une équipe qui a commencé à jammer, justement. Et donc après, la prochaine étape, ça sera de trouver le financement pour des cours. Parce que très vite, les gens, le premier violon qu'on a prêté en automne passé, ben, c'était une iranienne d'ailleurs qui l'a emprunté, puis qui a tout de suite demandé oui, mais les cours, comment ? Alors, il y a des tutoriaux, mais après, rien de nouveau quand même, le contact pour apprendre, quoi.
Avec un professeur. Bon, vous avez des instruments. Je ne sais pas si on l'a bien compris. Hein. Il y a la double vertu. On va prêter des instruments à des gens qui n'auraient pas forcément les moyens d'en avoir un. Mais on va aussi récolter des instruments venus de la bonne volonté et de la générosité de ceux qui en ont.
Exactement. Puis ça, j'ai appris à ça, parce que j'avais jamais fait de programme dans ce sens-là, mais plein de gens ont donné des instruments, pas mal de personnes, moi, des musiciens qui en avaient beaucoup, ou d'autres qui jouaient plus, et puis des gens qui ont peu de moyens. Là, j'ai une personne, bah, c'est marrant parce qu'elle habitait à Martigny, et qui a dit, je peux pas me déplacer pour donner mes instruments. C'est une personne qui a l'AI et qui a très peu de moyens, puis qui avait plein d'instruments à donner, puis qui était très contente de voir que ces instruments peuvent vivre pour d'autres personnes. Donc c'est une belle expérience humaine, effectivement.
Et ça fonctionne plutôt bien pour un début.
Alors on a eu beaucoup d'instruments, puis maintenant, après quelques mois, on a déjà plus d'une quarantaine d'instruments qui sont prêtés et d'autres qui nous viennent encore. Donc ça marche bien par rapport à ça. Ouais.
C'est une bibliothèque, hein. On prête pour quelques temps et puis on peut prolonger si l'instrument n'a pas été réservé par quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça marche.
Exactement. Par contre, on prête sur 3 mois, contrairement au livre où c'est plus court. Et puis on peut prolonger une fois si l'instrument n'est pas réservé. Alors, ça va de la guimbarde à la contrebasse, pour prendre le plus petit au plus grand, on dira. Autrement, il y a plein d'instruments traditionnels, mais aussi des accordéons chinois, des instruments plus orientaux, bien d'Amérique latine.
Il y en a qui ont plus de succès que d'autres, j'imagine. L'accordéon chinois, il est assez peinard. Ou bien...
Ouais, il n'a pas encore été emprunté à ma connaissance. Par contre, évidemment, les guitares, les flûtes sont bien empruntées, des violons aussi. Après, il y a quelques instruments, tout est gratuit, sauf quelques instruments, on demande une caution, parce qu'il y en a qui sont quand même très chers.
Saxophone, ça coûte une fortune.
Exactement.
Par exemple,
on a un saxophone Selmer, je crois. C'est la fameuse marque qui est très chère. Et puis un ou deux violons qu'on n'a pas encore prêtés. On travaille avec des professionnels qui ont dit ouais, prêtez-les pas encore, ou c'est trouver une autre façon, parce que c'est un peu limite, quoi.
Un peu limite parce que des instruments trop précieux, justement,
voilà, ouais,
pour être mis en risque. Hein.
Voilà.
Merci d'être passé dans cette émission, Yves Ecker.
Ben, merci à vous pour ce